du genre dans l'histoire, épisode 10, Les lois Veil, mon corps, mon choix.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir Bibia Pavard, chercheuse spécialiste du féminisme contemporain, que vous connaissez peut-être mieux depuis la sortie de son livre « Déjà culte », écrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Il a été publié aux éditions La Découverte en 2020. Depuis le 4 février 2022, elle est la nouvelle présidente de Mémiosine. Bonjour Bibia.
Bonjour.
L'ouvrage a pour ambition de retracer une minutieuse histoire des féminismes depuis 1789. Notre ambition d'aujourd'hui sera plus restreinte. Pour rester dans la thématique du corps, entamée dans notre épisode 9, j'ai voulu explorer les liens qui se tissent entre le corps des femmes et les combats menés par les féministes entre la Seconde Guerre mondiale et 1982, en particulier autour du droit à l'avortement. Pour évoquer cette loi et la décennie qui l'a vue naître, on utilise parfois l'expression de « libération féminine ». Cette expression correspond-elle à une réalité ? Et peut-elle véritablement être reliée aux étapes qui ont permis l'adoption puis la mise en place des lois sur la contraception et l'avortement entre 1967 et 1982 ? Dans quel contexte politique et social ces lois ont-elles été adoptées ? Quels obstacles ont-elles rencontrés et quels combats ont-elles impliqués ? Avec Bibia et Clémentine, de retour parmi nous aujourd'hui pour la transposition didactique, mais sans Fabio, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Bibia, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui, je suis maîtresse de conférences à l'Université Panthéon à Sas, chercheuse au Charisme, centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias, et j'ai soutenu une thèse en 2010 sur les questions de contraception et d'avortement en France, du milieu des années 50 à la fin des années 70, et depuis je travaille sur les mobilisations féministes, notamment en lien avec les médias, mais aussi sur la question de la circulation transnationale des techniques d'avortement dans les années 70.
D'accord, merci. Nous allons commencer par les années qui ont préparé la loi Veil, à peu près entre la naissance du planning familial et le vote des lois. Les luttes féministes des 19e et 20e siècles ont d'abord porté sur l'égalité des droits, l'éducation et le droit de vote. À partir de quand la question du corps et de la santé font-elles leur apparition dans les revendications et les actions féministes ?
C'est une très bonne question parce qu'on voit déjà poindre ces questions-là en réalité au 19e siècle, mais de façon très marginale, notamment les questions de libre maternité que l'on peut retrouver chez des féministes comme Nelly Roussel ou Madeleine Pelletier. Mais c'est vraiment à partir des années 1930, par exemple aux États-Unis ou en Europe du Nord et en France plutôt dans l'après-Seconde Guerre mondiale, qu'il va y avoir une théorisation féministe de ces questions de contraception, d'avortement et de maternité. On peut d'abord penser évidemment à l'ouvrage de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », publié en 1949, où elle aborde très justement l'hypocrisie de la société autour de cette question d'avortement, la liberté pour les femmes de pouvoir accéder à la contraception. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir va être un soutien de poids à la libéralisation de la contraception et de l'avortement.
Alors, une association qui a joué un rôle important dans ces questions, c'est le planning familial. Peux-tu nous expliquer, et surtout expliquer aux éditeurs et aux auditrices, de quoi il s'agit ?
Alors, en réalité, en France, la revendication de planning familial se déploie plus tardivement que dans d'autres aires géographiques, justement parce qu'il y a une loi, la loi de 1920, qui interdit à la fois la circulation et la vente de produits contraceptifs, l'avortement, elle punit à la fois les avorteurs et les femmes venues avorter, mais elle punit aussi la propagande anticonceptionnelle, c'est le terme que l'on trouve dans la loi, et donc toute forme de propagande autour et d'information finalement autour de la contraception. Ce qui fait que tous les mouvements autour du birth control qu'on peut trouver aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi dans les pays du Nord par exemple, ne peuvent pas se déployer dans ce contexte d'interdiction. Et c'est vraiment dans les années 1950 qu'il va y avoir une tentative de réouvrir le débat sur cette loi de 1920, notamment sur le volet contraceptif, et qu'on voit naître donc une première association uniquement formée de femmes 1956, qui s'appelle « La maternité heureuse ». Ce sont des femmes plutôt de classe moyenne et supérieure, des femmes médecins, avocates, gynécologues, écrivaines, qui vont ouvrir les débats en disant « Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux libéraliser la contraception pour lutter contre l'avortement clandestin et les désastres que cet avortement clandestin a sur la vie des femmes, un désastre psychologique et physique ?» Et c'est cette association, la Maternité Heureuse, qui va devenir, en 1960, le mouvement français pour le planning familial, en se rattachant justement à cette grande ONG internationale qui part des États-Unis, qu'on appelle l'International Planned Parenthood Federation, donc la Fédération internationale de planning familiaux, et qui vise donc justement à fédérer toutes ces initiatives locales autour de la libéralisation de la contraception.
Et comment expliquer que d'un coup ça va devenir possible, que cette maternité heureuse s'intègre au planning familial ?
Alors comment expliquer que le débat puisse émerger dans les années 50 ? C'est une très bonne question, parce que la loi elle est toujours là, hein, la loi de 1920, il y a toujours cet interdit légal. Mais finalement, il y a une stratégie très intelligente, hein, des militantes puis des militants, les hommes vont rejoindre le mouvement assez rapidement, qui vise vraiment la respectabilité. L'idée c'est de dire, nous sommes des mères de famille, nous sommes aussi des professionnels de la médecine, et nous considérons que la loi est mauvaise pour la vie des femmes et des couples. Elle crée des drames du fait de cet avortement clandestin qui a des effets sur la santé des femmes, mais aussi des couples hein, qui parfois se déchirent autour de cette angoisse finalement des maternités non désirées. Donc il y a tout un discours de normalisation autour de ce birth control, et c'est d'ailleurs la traduction française de birth control, c'est alors planning familial, avec le terme familial en plein cœur de cette expression. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est d'améliorer la vie du couple, de la famille, et donc absolument pas d'aller à l'encontre de tout le discours nataliste aussi post-Seconde Guerre mondiale. Au contraire, il ne s'agit pas d'avoir moins d'enfants, mais d'avoir des enfants désirés, des enfants heureux, des familles accomplies. Donc vous voyez, tout un discours très très respectable qui se déploie à ce moment-là.
Oui, qui place la famille au centre et non pas la femme.
Tout à fait. On voit que c'est quand même déjà problématique de le faire de cette manière, puisque le mouvement français pour le planning familial rencontre des oppositions immédiates. Alors, de la part de l'Église catholique, qui n'autorise pas la contraception moderne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle contraception moderne dans les années 50 ? Ben, ce sont les spermicides, les diaphragmes. Donc ça, ce n'est pas autorisé par l'Église. Hein. La seule méthode autorisée, c'est l'abstinence périodique, qu'on peut aussi appeler méthode Ogino, et des températures. Donc l'opposition de l'Église catholique qui se place sur le plan moral. Et une opposition assez inattendue aussi, qui vient du Parti communiste français, qui considère que, en fait, le planning familial, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, déjà. Donc, dans un contexte de guerre froide, c'est problématique. Et par ailleurs, avec l'idée que ce que veulent les femmes du peuple, hein, c'est pas avoir moins d'enfants, mais c'est d'avoir autant d'enfants qu'elles le souhaitent dans de bonnes conditions. Donc, ce que le Parti communiste revendique plutôt, ce sont donc des crèches, des allocations pour pouvoir avoir des familles accomplies. Un discours assez nataliste et aussi assez conservateur sur les questions de sexualité à ce moment-là, dans les années 50. Bien que le Parti communiste, et ça c'est un peu étrange, mais va plutôt prôner l'avortement libre, tout ça parce que dans ce contexte des années 50, l'avortement est autorisé en URSS. Donc on voit aussi derrière ces questions, en France, poindre des questions géopolitiques plus larges. Et si je peux ajouter une dernière chose qui me semble aussi très intéressante, c'est que si on se place du point de vue des territoires d'outre-mer cette fois-ci, au contraire, le discours de l'État français qui interdit contraception et avortement en France métropolitaine va promouvoir dans ces territoires, Guadeloupe, Martinique, Réunion, le planning familial, avec l'idée que là, dans ces zones française, hein, la natalité est trop élevée et il faut au contraire encourager les familles à réduire leurs naissances. Donc il y a aussi un certain nombre d'hypocrisies qui sont mises au jour par ces questions.
Bibia, quelles ont été les premières étapes d'une plus grande maîtrise pour les femmes de leur corps et de leur sexualité ?
Alors le mouvement français pour le planning familial, qui donc émerge au milieu des années 50, mène un très long combat, de près de 10 ans jusqu'à la légalisation de la contraception, on va y venir, mais c'est un combat qui se joue sur plusieurs tableaux. D'abord un tableau scientifique, il s'agit de produire des ouvrages scientifiques, des données scientifiques sur les bienfaits de la contraception. Et là, vraiment, le mouvement français pour le planning familial va réussir à se poser comme le plus grand expert de ces questions de contraception à ce moment-là, avec aussi une étape qui est franchie à partir de 1961, l'ouverture des premiers centres de planning familial. Le premier s'ouvre à Grenoble parce que, en fait, ce mouvement qui est parti de Paris devient une fédération d'associations départementales et donc qui se développe partout en France. Et donc, le premier centre est ouvert à Grenoble, le second à Paris quelques jours plus tard. Et l'idée, c'est de pouvoir distribuer directement des contraceptifs aux adhérents de l'association. Donc à la fois prodiguer des conseils autour de la sexualité, de la conjugalité, mais aussi donc fournir des ordonnances pour ensuite obtenir des contraceptifs qui sont envoyés depuis l'Angleterre ou la Suisse. Et donc c'est une étape importante parce que voilà, ça crée un état de fait. Alors comment contourner l'interdit légal ? C'est une question importante et ça a été là pour le coup aussi encore une stratégie très fine. L'idée c'est que ce n'est pas de la propagande anticonceptionnelle mais de l'information à destination d'un groupe qui est très délimité, qui est celui des adhérentes et des adhérents de l'association. Et c'est comme ça que finalement le mouvement français pour le planning familial va devenir un mouvement de masse, puisque voilà, les adhérentes vont augmenter de façon exponentielle pendant les années 60. Et donc on a vraiment un développement qui se joue sur le terrain, à la base comme aussi au niveau national avec un lobbying auprès de législateurs, plusieurs propositions de loi sont déposées par des groupes de gauche notamment. Donc voilà, quelque chose qui se déploie sur plusieurs tableaux. Il y a aussi des émissions de télévision qui sont consacrées à ces questions. C'est 10 ans de mobilisation qui vont finir par aboutir à cette fameuse loi Neuwirth qui donc est votée en 1967.
Et cette loi, finalement, elle est l'aboutissement de toutes ces années de travail. Est-ce qu'elle est malgré tout difficile à faire voter ?
Alors, la loi Neuwirth a donné lieu à d'importants débats qui vont traverser la société, donc des débats qui se déploient dans les médias, mais aussi des débats qui vont se déployer au Parlement. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant que finalement, ce soit une loi qui soit défendue par un député gaulliste. Hein. Lucien Neuwirth est un fervent gaulliste de la première heure, ancien résistant, qui se retrouve à soutenir cette loi alors que c'était plutôt la gauche qui avait auparavant déposé des propositions de loi. Mais Lucien Neuwirth a été très marqué par ces questions de contraception. D'abord, lui, en tant que jeune homme en Angleterre, lorsqu'il était soldat et qu'il a eu sa première expérience sexuelle, il le raconte, et que, avec une soldate anglaise et que celle-ci lui a tendu du spermicide. Et donc, ça a été pour lui une grande découverte. Mais aussi lorsqu'il a été membre du conseil municipal de Saint-Étienne, où il a été confronté à la difficulté des familles, notamment sur la question du logement, qui est vraiment centrale aussi pour comprendre cet enjeu démographique à l'époque, donc ces familles qui se retrouvent dans des logements trop exigus avec donc des naissances qui se multiplient. Et donc il a été approché par des militants du planning familial qui vont donc le convaincre hein, que c'est une cause importante et lui-même va réussir à convaincre le général de Gaulle de le laisser défendre cette loi sans que ce soit du tout hein, par contre soutenu par le gouvernement puisque la plupart des gaullistes sont opposés à cette réforme. Donc finalement les arguments que l'on retrouve au Parlement, ben ce sont les mêmes que l'on retrouve dans la société, une opposition plutôt d'ordre moral qui repose sur une certaine vision de la société empreinte de religion catholique, et puis aussi une angoisse démographique que l'on retrouve beaucoup à droite de l'échiquier politique. Et au contraire, à gauche, on retrouve plutôt la nécessité de garantir une certaine liberté pour les individus, pour les couples. Mais c'est vrai que la question de la libération des femmes est très, très peu abordée, ou alors dans un sens négatif. Il y a vraiment des craintes que les femmes puissent, par exemple, à ce moment-là, la pilule contraceptive commence à se diffuser aux États-Unis et dans d'autres aires géographiques, et même en France, on commence à en prescrire, d'ailleurs, avant même la légalisation. Et donc, la grande crainte, c'est que les femmes puissent prendre des contraceptifs sans que leur mari soit au courant. Donc, on retrouve ce type d'angoisse aussi. Et finalement, c'est grâce aux voix de la gauche, alors non communiste et communiste, parce que le Parti communiste a effectué un retournement au milieu des années 60 et finalement soutient cette loi, que la loi peut passer et qu'elle est finalement votée, mais à la suite de débats extrêmement houleux, vifs, sur des transformations de la société que ça peut créer.
Oui, en tout cas, elle n'est pas conçue comme un instrument de libéralisation des femmes.
Elle n'est pas du tout conçue comme un projet politique de libération du corps des femmes. D'ailleurs, les femmes sont extrêmement minoritaires à l'Assemblée et au Sénat, il faut quand même le rappeler, hein, elles se comptent sur le doigt d'une main. Donc elles participent beaucoup, hein, les femmes parlementaires, à ce débat, mais elles le font peu en tant que femmes, elles le font plutôt en tant que représentantes de leur circonscription ou de leur parti. Mais donc cette voix féministe ne s'exprime absolument pas dans le débat à ce moment-là.
Alors, merci Bibia. On va essayer maintenant d'avancer, de nous rapprocher des lois Veil, mais en passant par un événement incontournable qui est celui de mai 68. Alors, quelle a été la place du mouvement féministe dans les événements de mai 68 ?
Alors, ce qui est assez fascinant pour les historiennes et les historiens du féminisme, c'est qu'on a un véritable renouveau des mobilisations féministes à partir du milieu des années 60, avec l'apparition de groupes comme le mouvement démocratique féminin, par exemple, hein, qui vise à faire une union de la gauche au féminin et une union de la gauche féministe à partir du début des années 60. Donc on a vraiment une revendication féministe qui s'exprime de nouveau de façon forte, aussi avec la sortie d'ouvrages importants sur la condition féminine en France. On parle beaucoup de cette question de la condition féminine aussi dans les médias, à la radio, à la télévision, des émissions comme Les Femmes aussi, ou l'émission de Ménie Grégoire à la radio sur RTL à partir de 1967. Donc il y a vraiment un renouveau très important. Et en même temps, mai-juin 68 n'est pas un moment où les idées féministes se déploient de façon importante. Et pourtant, les femmes sont partout en 68. Hein. Elles manifestent dans la rue, elles occupent les universités, les usines, elles revendiquent de meilleures conditions de travail, elles sont en grève, donc elles sont omniprésentes, mais alors elles ne sont pas du tout sur le devant de la scène. Elles n'occupent pas les places devant les micros ou les caméras. Il n'y a aucune femme qui négocie les accords de Grenelle, par exemple. Donc elles sont à la fois très présentes, mais en même temps marginalisées. Ce qui fait que, et c'est la même chose pour les idées féministes, c'est-à-dire qu'elles émergent dans certains espaces, mais très limités. Il y a notamment un débat à la Sorbonne qui est organisé par le groupe féminin masculin Avenir, qui est un peu la branche jeune du mouvement démocratique féminin que j'évoquais tout à l'heure, donc sur la place de la femme dans la Révolution. Il y a aussi des petits groupes qui peuvent être créés à différents endroits, dans différents contextes, mais c'est vraiment très marginal. On ne peut pas dire que mai-juin 68 est un moment de forte expression féministe.
Et est-ce que mai 68 a une influence sur la naissance du MLF ?
Le mouvement de libération des femmes en France émerge publiquement en 1970 avec les premières manifestations, les premières publications. Il y a effectivement des groupes qui commencent à émerger à partir de 68, mais qui sont donc des petits groupes non mixtes qui réfléchissent aux questions théoriques et politiques autour de la place des femmes dans la Révolution. Mais c'est vraiment en 1970 qu'on voit se déployer un nouveau mouvement féministe. Ce qui se passe aussi entre 68 et 70, c'est l'émergence et le déploiement d'un Women's Liberation Movement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Donc on a aussi des formes de circulation transnationale, de revendications et aussi de textes qui sont traduits en français en 70. Donc il y a tout un bouillonnement, une sorte de phase de maturation et une explosion plutôt à partir de 1970. Il y a tout un débat, une polémique sur la date de naissance du mouvement de libération des femmes. En tant qu'historienne, c'est pas vraiment une question que je me pose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une date de naissance du MLF. Ce qu'on voit plutôt, c'est différentes phases de maturation et d'émergence publique de cette mobilisation. Et c'est vrai qu'en 70, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, notamment la publication d'un numéro spécial de la revue Partisan qui s'appelle Libération des femmes année zéro. Alors, c'est assez caractéristique parce qu'il y a cette envie de faire advenir quelque chose de nouveau, mais quand on y réfléchit en tant qu'historienne, on n'est pas du tout dans une année zéro. Hein. On y a une histoire longue des mobilisations féministes, mais il y a en tout cas cette volonté de faire advenir une nouvelle mobilisation. Il y a un texte très important aussi qui est publié dans L'Idiot international qui s'appelle « Combat pour la libération de la femme ». Voilà, donc il y a des textes qui sont publiés, des traductions de textes américains, et il y a aussi donc des manifestations publiques, comme la fameuse manifestation du 26 août 1970 sous l'Arc de Triomphe à Paris, où une dizaine de femmes se réunissent pour rendre hommage à la femme du soldat inconnu, donc plus inconnu que le soldat sa femme, avec quelques banderoles et donc cette gerbe de fleurs qu'elles viennent déposer. Et effectivement, ça, c'est un coup médiatique dans la mesure où elles sont peu nombreuses, mais la presse est présente. On est le 26 août, il n'y a pas énormément d'informations à ce moment-là. Et la police les arrête, donc ça, voilà, ça donne lieu à une scène très médiagénique, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date du 26 août, elle n'est pas prise au hasard. Elle est choisie parce que le 26 août, aux États-Unis, il y a une grande grève féministe qui est organisée pour célébrer le cinquantenaire de l'obtention du droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc il y a vraiment un écho qui est fait à cette mobilisation transnationale à ce moment-là.
Et donc, quelle a été la place des questions de sexualité et de natalité dans la réflexion et dans les actions du MLF des premières années ?
Les questions de contraception et d'avortement sont vraiment des questions centrales au début du mouvement de libération des femmes, autant que les questions de plaisir et de sexualité, de questions de domination masculine dans la sexualité. Si on prend le numéro spécial de la revue Partisan, que j'évoquais tout à l'heure, qui a été publié en 1970. Il y a une partie de textes qui sont traduits de l'américain et une partie de textes des françaises. Et donc, on retrouve beaucoup de discours sur le plaisir, par exemple, des femmes et la question de l'orgasme clitoridien et de l'orgasme vaginal. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Il y a aussi beaucoup de choses sur la question de l'avortement et sur la nécessité pour les femmes de disposer de leur propre corps. Et donc finalement, cette question de l'avortement qui jusque-là avait été posée sous l'angle de la santé des femmes et du danger que représente l'avortement clandestin pour à la fois la santé, parfois la vie des femmes, tout d'un coup est posée sous un angle totalement différent. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu l'ouverture d'un débat sur l'avortement en France dès 1970 autour de la question de l'avortement thérapeutique. L'avortement thérapeutique, alors à ce moment-là, certains médecins, notamment issus du planning familial, des femmes et des hommes, considèrent qu'il faut élargir les conditions dans lesquelles on a le droit à l'avortement thérapeutique. Et à ce moment-là, on n'y a le droit que si la vie de la mère est en danger. Et donc, il s'agit de l'élargir à d'autres circonstances. Mais dans ces débats-là, l'idée, ça serait qu'une commission d'experts décide si une femme peut avoir recours à l'avortement thérapeutique ou non. Et là, tout d'un coup, le mouvement féministe vient totalement redéployer les cartes en posant la question totalement différemment, en disant en fait, il n'y a pas de commission qui doit décider pour les femmes, c'est nous, en tant que femmes, qui devons décider pour nous-mêmes. Et donc, cette question de l'avortement, on la retrouve dans les tracts, on la retrouve dans les manifestations. Et la question de la sexualité, plus généralement aussi, est très, très importante, parce que c'est la sexualité comprise comme un lieu d'expression privilégiée de cette domination des hommes sur les femmes. Alors il y a par exemple toute une mobilisation aussi autour de la question des filles mères, et donc c'est l'expression qu'on utilise à l'époque pour désigner les très jeunes femmes qui sont enceintes et qui vont garder leur enfant, souvent contraintes de le faire par leur entourage familial. Et donc, par exemple, il y a des établissements quasi pénitentiaires où, ces femmes sont enfermées jusqu'à l'accouchement. Alors, parfois, l'enfant est aussi donné sous X après la naissance. Bon, et du coup, il va y avoir une mobilisation dans le foyer des filles mères du Plessis-Robinson en 1971, qui va mettre l'accent sur cette condition de ces jeunes femmes. Mobilisation dans laquelle va s'impliquer Simone de Beauvoir, les médias vont suivre l'affaire, donc il va donner voilà, un certain éclairage sur cette question de la liberté, de choix, des contraintes sociales, des questions aussi de sexualité en rapport avec l'âge, donc qui sont importantes dans ces débuts de MLF.
Oui, elles ouvrent quand même une réflexion sur le corps et sur la sexualité.
Tout à fait, et c'est vrai que cette question de la sexualité vue cette fois-ci non pas dans le cadre du couple hétérosexuel marié, ça vient voilà, faire trembler les bases de la société, pour reprendre les termes de l'époque bourgeoise. Alors, dans la lignée aussi de la révolution sexuelle telle qu'elle était prônée par les mobilisations dans les années 60 et dans les années 68 plus généralement, mais cette fois-ci avec... un autre point de vue qui est celui des femmes et qui ajoute un élément important qui est celui de cette sexualité féminine qui est à la fois encadrée par des normes plus sévères et qui est aussi sans cesse contrôlée par des formes de violence. Hein, ça peut être la question du viol est abordée dès 1970 par exemple. Et autre question vraiment aussi centrale qui émerge à ce moment-là, dès le début des années 70, c'est la question de l'homosexualité, du lesbianisme, qui aussi viennent faire trembler les bases de cette société bourgeoise.
Alors, peux-tu nous raconter l'histoire du manifeste des 343 qui a joué un rôle très important dans la loi sur l'avortement ?
Alors, le manifeste des 343 est initié par les journalistes du Nouvel Observateur qui viennent trouver les militantes du MLF et leur proposent ce mode d'action très classique de la gauche française. Sauf que là, l'idée, c'est de faire signer uniquement des femmes, des célébrités, évidemment, des intellectuels, mais aussi des anonymes. C'est ce que négocient les militantes du MLF qui veulent par là montrer que toutes les femmes sont concernées par la question de l'avortement. Et cette entreprise est immédiatement soutenue par Simone de Beauvoir, qui va le signer, évidemment, mais aussi ouvrir son carnet d'adresses à des personnalités qui sont des habituées des manifestes, comme par exemple Marguerite Duras, Christiane Rochefort, qui est très impliquée dans les débuts du MLF, mais aussi Colette Audry, qui vient donc du PSU. Ou Gisèle Halimi, cette avocate qui s'est déjà fait connaître pour avoir défendu Djamila Boupacha et plus généralement être très impliquée sur les questions de lutte contre le colonialisme. Donc ce manifeste, il est signé par des intellectuels, par des écrivaines, mais aussi par des actrices. Par exemple Delphine Seyrig, très impliquée dans le MLF, mais aussi Nadine Trintignant, Marie-France Pizier par exemple, Bernadette Lafont, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Autant de personnalités qui attirent l'attention des médias sur ce manifeste qui, comme le dit le journal Le Monde le jour même, représente une date importante pour l'histoire des mobilisations féministes, mais aussi pour l'histoire des mobilisations pour la libéralisation de l'avortement. Tout d'un coup, cette vision féministe de l'avortement fait irruption dans le débat public et on peut vraiment voir ce manifeste comme un tournant pour l'histoire de l'avortement en France.
Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre.
Et comment ce manifeste a-t-il été reçu par la population française ?
Il y a eu diverses formes de réception. D'abord, voilà, il faut noter la très grande couverture médiatique qui a reçu ce manifeste. Il faut aussi noter l'hostilité qu'a rencontré le manifeste, notamment chez les catholiques, et déjà mobilisé par exemple dans Laissez-les vivre, qui est une association qui milite contre toute modification de la loi depuis 1970. Il y a eu des contre-manifestes, notamment par exemple de juristes pour le maintien de la loi sur l'avortement. Mais il y a aussi eu des formes de circulation transnationale de ce manifeste, puisque un manifeste similaire a été publié en Allemagne dans Die Stern.
Alors, je voudrais maintenant qu'on évoque le procès de Bobigny, qui s'est donc tenu en octobre 72, et le personnage de Gisèle Halimi, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'avortement et des questions touchant à la sexualité des femmes.
Alors, le procès de Bobigny découle de la création de l'association Choisir, en 1971, à la suite du manifeste des 343, parce que l'idée, c'était de pouvoir défendre juridiquement les signataires du manifeste qui auraient pu être inquiétés, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est à la fois très scandaleux de signer ce manifeste et c'est aussi se mettre en danger face à la loi, puisque l'avortement est toujours interdit. Gisèle Halimi crée cette association Choisir, qui très rapidement va recevoir de nombreux courriers de femmes qui sont dans une situation difficile face à l'avortement, soit qu'elles cherchent à avorter, soit qu'elles ont avorté et qu'elles sont poursuivies juridiquement. Et c'est là qu'arrive un jour une lettre qui, pour Gisèle Halimi, représente toute l'absurdité de la loi de 1920 et surtout toute l'injustice qu'elle provoque, puisqu'il s'agit d'une lettre d'une mère célibataire qui a aidé sa fille mineure à avorter à la suite d'un viol et qui est poursuivie, ainsi que donc sa fille et ses collègues de travail, elle travaille à la RATP, pour l'avoir aidée à trouver une avorteuse. Donc la jeune fille, Marie-Claire, a non seulement avorté dans des conditions difficiles, hein, on lui a posé une sonde, elle a frisé la septicémie, elle a été hospitalisée, et en plus, donc elle est poursuivie parce que son violeur l'a dénoncée à la police en espérant alléger la peine qu'il allait qu'il encourait lui-même pour avoir volé une mobylette. Donc tout ça semble tellement absurde et tellement injuste qu'elle décide de faire de ce cas le procès politique de l'avortement, de cette loi de 1920. Gisèle Halimi étant vraiment une habituée des procès politiques, elle se sert donc de cette scène judiciaire pour donc soulever des questions politiques.
Si notre très convenable déontologie prescrit aux avocats le recul nécessaire, la distance d'avec son client, sans doute n'a-t-elle pas envisagé que les avocates, comme toutes les femmes, étaient des avortées, qu'elles pouvaient le dire et qu'elles pouvaient le dire publiquement comme je le fais moi-même aujourd'hui. Ce que j'essaie d'exprimer ici aujourd'hui, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes que la loi appelle des complices, avec ces femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces femmes, ces millions de femmes françaises et autres. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ? Cela paraît démentiel. Extrait de la plaidoirie de Maître Gisèle Halimi.
Alors, ce procès a une importance cruciale parce qu'il donne de l'ampleur à la revendication féministe de la libre disposition de leur corps par les femmes, mais aussi parce qu'il pose la question des inégalités de classe sociale devant l'avortement. Parce que Gisèle Halimi décide de vraiment mettre l'accent sur la double injustice que subissent les femmes des classes populaires qui doivent se confronter aux avortements clandestins dans des conditions vraiment sordides, alors que d'autres femmes qui ont les moyens peuvent aller avorter à l'étranger dans des pays où l'avortement est légalisé, par exemple, ou payer cher des médecins qui le font dans de meilleures conditions. Donc cette question de classe, elle devient vraiment évidente à partir de ce procès, ce qui fait que la gauche et l'extrême gauche va davantage s'investir sur cette question d'avortement qui était jusque-là vue plutôt comme une question féministe un peu bourgeoise. Là, soudain, une nouvelle dimension émerge qui a un rôle important dans les mobilisations qui vont suivre.
Un nouvel acteur de la lutte fait son apparition en 1973, c'est le MLAC. Peux-tu nous expliquer de quoi et de qui il s'agit, quels sont ses objectifs ?
Le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Et c'est un mouvement qui voit converger des médecins d'extrême gauche qui pratiquaient des avortements et qui l'avaient fait savoir dans un manifeste en 73 dans le Nouvel Observateur également. Des militants de la CFDT, notamment Jeannette Lahotte, qui est à la tête de la commission femmes de la CFDT. Simone Yves, qui vient du planning familial. Et d'autres militantes et militants d'extrême gauche. C'est un mouvement mixte qui, contrairement par exemple au MLF, hein, qui est non mixte, et qui vise donc à la fois à promouvoir la liberté de l'avortement, mais aussi à pratiquer des avortements avec une méthode qui est venue des États-Unis et du Royaume-Uni, qui est la méthode Karman, ce qu'on appelle la méthode Karman. C'est cette méthode d'avortement que l'on peut pratiquer dans les premières semaines de la grossesse, donc une méthode d'avortement par aspiration, qui apparaît totalement révolutionnaire à ce moment-là, parce qu'on peut la pratiquer en dehors de l'hôpital. Elle est pratiquée sans anesthésie, avec ce que Harvey Karman, celui qui a promu cette méthode, appelle l'anesthésie verbale, donc un accompagnement très précis des femmes qui leur parlent de l'opération, qui leur permet aussi de s'approprier cet avortement. Et donc tout d'un coup, cette méthode d'avortement apparaît comme la possibilité de faire des avortements militants en dehors de l'hôpital, non médicalisés ou en tout cas peu médicalisés, et dans une perspective où les femmes peuvent retrouver la maîtrise de leur corps et participer à l'opération. Et donc, pour les militantes et les militants du MLAC, qui va devenir en fait un mouvement national avec des antennes qui vont s'ouvrir partout en France, c'est vraiment la possibilité de faire de la médecine autrement, mais aussi de totalement remettre en cause l'ordre établi et de faire prendre conscience aux femmes qui viennent avorter qu'elles peuvent vivre autrement, qu'elles peuvent aussi lutter à leur propre niveau face à cette injustice de l'avortement.
Jusqu'à présent, nous avons parlé de pas mal d'acteurs finalement. Est-ce que entre planning familial, MLF, Choisir, le MLAC, est-ce qu'il y a convergence des luttes ou est-ce qu'il y a plutôt des divergences ?
C'est très compliqué comme question et en même temps c'est très intéressant parce que les nouveaux travaux qui se sont développés ces derniers temps sont venus apporter des connaissances sur les configurations locales de ces différents groupes. Donc on peut avoir une vision de ce qui se passe au niveau national, mais c'est très intéressant aussi de voir que dans chaque ville, à Grenoble, à Lyon, à Toulouse, à Lille, à Marseille, en fait, il y a des configurations différentes selon l'histoire politique de ces différents lieux. Et donc il y a des formes de coalition, il y a des formes d'alliance, il y a des formes de divergences politiques fortes, stratégiques autour de la question est-ce qu'il faut une nouvelle loi, est-ce qu'il faut une loi ou pas ? Est-ce qu'il faut pratiquer des avortements ? Est-ce qu'il faut que ce soit des médecins qui pratiquent l'avortement ou des non-médecins ? Est-ce que les femmes peuvent pratiquer elles-mêmes l'avortement ? Toutes ces questions-là sont posées et les réponses divergent selon les contextes. Mais ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'ampleur de ces mobilisations qui donc se déploient à la fois au niveau local, au niveau national et qui poussent véritablement vers un changement de la loi.
Oui, justement, je voulais demander si les médias s'impliquent aussi dans ces débats ou si ça reste un débat qui se situe au niveau associatif.
Alors les médias s'emparent véritablement de ce débat national sur la question de l'avortement. 1973, c'est vraiment un pic de cette mobilisation. Alors on a à la fois évidemment une couverture médiatique dans les médias alternatifs d'extrême gauche. Je pense évidemment au journal d'information Libération qui est né à ce moment-là, aux journaux féministes, aux journaux d'extrême gauche. Donc une forte couverture médiatique de ce niveau-là, mais aussi dans les médias généralistes, on voit se déployer le débat pour ou contre l'avortement de façon assez spectaculaire dans les années 70. Par exemple, à la télévision, se multiplient les débats où on va voir s'opposer d'un côté les pro-changement de la loi et ceux, au contraire, qui veulent maintenir le statu quo. Et donc des débats vraiment très vifs où l'on voit deux visions de la société totalement opposées se déployer.
Mais alors justement, comment expliquer que la présidence, donc Valéry Giscard d'Estaing et son gouvernement, finissent par s'emparer du sujet et confient un projet de loi à Simone Veil ?
En réalité, le débat sur l'avortement est déjà ouvert au Parlement en 1973 autour d'un premier projet de loi qui est porté par le gouvernement de Pierre Messmer sous Pompidou. Un débat qui est très polarisé, une loi qui est très timide et qui finalement rencontre à la fois l'hostilité de la gauche et d'une partie de la droite. Donc il était question d'en rediscuter au printemps, puis entre-temps Pompidou donc décède. Il y a une élection présidentielle anticipée et Valéry Giscard d'Estaing évite un peu la question de l'avortement ou en parle à demi-mot pendant l'élection parce qu'il sait que ce n'est pas une question qui... C'est plutôt une question qui divise, notamment à droite. En revanche, lorsqu'il est élu, il va faire de cette question de l'avortement un marqueur du renouveau politique qu'il souhaite incarner, de sa modernité. Et donc, il va à dessein choisir de confier le dossier à la ministre de la Santé, Simone Veil, qui est donc à la fois une femme, une magistrate et donc une excellente technicienne qui, en tant que femme, peut aussi incarner cette question de l'avortement.
Et donc, quelles vont être les premières mesures prises par la ministre ?
Alors, Simone Veil va faire un important travail préparatoire pour s'assurer que la même assemblée qui avait totalement rejeté le projet en 73 va cette fois-ci l'accepter. Et notamment, sa première idée, ça va être de vraiment légaliser totalement la contraception, ce qui est fait en 1974. La loi Neuwirth était très restrictive en réalité. Et donc en 1974, elle va revenir sur toutes ces restrictions, notamment l'autorisation parentale nécessaire pour les mineurs, la nécessité pour les pharmaciens de tenir un carnet à souche pour s'assurer qu'il n'y a pas de trafic de pilules, par exemple. Donc elle va vraiment totalement banaliser la contraception avec l'idée que ça permet aussi de lutter contre l'avortement, de faire cela. Et puis ensuite, elle va consulter beaucoup de parlementaires, elle va consulter des féministes et elle va essayer de produire le projet de loi le plus consensuel possible en donnant des garanties à la fois à la gauche, c'est-à-dire la garantie principale, c'est que c'est la femme qui décide quand elle souhaite avorter, hein, ce qui n'était pas du tout le cas dans le premier projet de 73. Donc elle place la décision de la femme au cœur de cette réforme, mais elle donne aussi des garanties à la droite, en particulier en ne préconisant pas le remboursement par la Sécurité sociale de l'IVG ou en réaffirmant la clause de conscience pour les médecins. Et finalement, la loi va être votée que pour 5 ans, ce qui est aussi une garantie. Donc c'est avec toutes ces mesures que finalement elle va réussir à créer un consensus à l'Assemblée, malgré les grandes divisions qui s'expriment lors du débat.
Alors, comment cette loi, qui a finalement été promulguée le 17 janvier 1975, comment est-elle reçue par les associations et par les féministes en général ? Est-ce qu'on peut parler d'une victoire ?
Alors, c'est assez paradoxal parce que Simone Veil a vraiment mis en avant son identité de femme dans ce débat parlementaire face à des assemblées d'hommes. Hein. C'est vrai qu'elles sont encore très minoritaires, les femmes parlementaires, en 1974, lors du débat. Mais en même temps, elle s'est bien gardée de se dire féministe publiquement. Elle ne veut pas que ça crispe les opposants à la réforme. Et donc finalement, cette loi, elle est à la fois perçue comme un aboutissement quand même de ces mobilisations. Et il ne faut pas oublier que c'est parce qu'il y a eu ces mobilisations qu'il y a eu la loi. Hein. Ce n'est pas la loi d'une femme, mais c'est le résultat de combats acharnés. Mais en même temps, c'est une loi qui est aussi très restrictive et qui n'est pas celle qui est évoluée par les féministes.
Oui, donc de ce point de vue-là, c'est plutôt un échec.
Alors c'est plutôt un combat qui continue d'être mené. C'est une lutte qui n'est pas terminée. Et donc justement, les mobilisations se poursuivent tout au long de la décennie. Aussi parce que cette loi, elle est votée provisoirement pour 5 ans, afin de donner des garanties à ceux et celles qui avaient peur d'un effondrement démographique. Il s'agissait de voir ce qu'il en était 5 ans après. Donc il a fallu se remobiliser en 1979 pour qu'elle soit votée définitivement.
Alors nous allons maintenant nous intéresser, au-delà de l'avortement, à finalement la question sur la libération du corps des femmes et aux combats qui ont été menés après 1975 par les féministes. Donc ma première question, ça serait sur justement les combats autour du corps des femmes qui ont mobilisé les féministes après la loi Veil.
C'est vrai que les questions de contraception et d'avortement ne sont pas les seules questions qui ont mobilisé les féministes qui voilà, poursuivent leur lutte tout au long de la décennie 70 et jusque dans les années 80. Et un des premiers enjeux qui va émerger après la loi Veil, c'est la question du viol, qui avait déjà été posée en 1970, mais qui va être de nouveau mise sur le devant de la scène à l'occasion de plusieurs affaires. Et donc, le MLF va notamment organiser 24 heures sur le viol à la mutualité, où là, il y a vraiment toute une réflexion sur ce que ce viol, sur ce que les viols disent, en fait, de la domination masculine.
Manifeste contre le viol à l'initiative du mouvement de libération des femmes. Article 1, le viol n'est pas une fable. C'est la réalité quotidienne des femmes dans les rues, dans leurs maisons, à leur travail, en vacances, le jour, la nuit. Même quand nous échappons à la réalité multiforme du viol, nous n'échappons pas à la peur que nous avons apprise dès notre enfance et que notre expérience ne fait que renforcer. Article 2, le viol n'est pas un hasard. C'est l'expression de la violence permanente faite aux femmes par une société patriarcale. Tout homme est un violeur en puissance. Nous sommes sans cesse en butte aux agressions sexuelles manifestes ou déguisées. La chasse aux femmes est ouverte toute l'année, 24 heures sur 24. Article 5. Le viol n'est ni désir, ni un plaisir pour les femmes. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non. L'impérialisme de la sexualité masculine cherche à se justifier en fabriquant une sexualité féminine passive, masochiste, entièrement soumise aux initiatives des hommes, ce qui permet de persuader tous les hommes, et même certaines d'entre nous, que le viol peut être recherché, provoqué, consenti, et pourquoi pas source de jouissance. Autrement dit, que le viol n'est pas un viol.
Un moment important de ces luttes autour de la question du viol, ça a été le procès d'Aix. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, il y a vraiment tout un débat extrêmement vif chez les féministes autour de la question de la lutte contre le viol et de la question pénale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire des violeurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre les femmes violées. Et donc, il y a vraiment des désaccords importants, hein, parce qu'on est aussi dans une réflexion sur la justice et sur les peines de prison. Donc, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout consensuel. En revanche, il y a un procès très important qui se tient à Aix-en-Provence en mai 78, où Gisèle Halimi défend deux femmes en couple, Anne Tonglet et Araceli Castellano, qui ont subi des viols alors qu'elles étaient en train de faire du camping sauvage dans la région de Marseille. Et assez classiquement, ces viols ont été reclassifiés en coups et blessures, ce qui était une habitude des tribunaux alors que Gisèle Halimi vraiment met l'accent sur la nécessité d'être jugée aux assises, ce qu'elle réussit à faire valoir, pour réaffirmer que le viol est un crime et qu'il doit être puni en tant que tel. Et ce procès, elle voulait en faire le procès de la loi sur le viol, elle voulait en faire aussi le procès du viol, ce qu'elle n'a pas réussi à faire aussi bien et de manière aussi approfondie qu'en 1972 au procès de Bobigny, parce qu'elle a rencontré l'hostilité des juges qui ont voilà, un peu déjoué sa stratégie judiciaire. Néanmoins, voilà, c'est une tribune encore une fois importante pour réaffirmer le scandale des viols et pour réaffirmer la nécessité de les reconnaître comme crimes et de les condamner comme cela. Et encore une fois, Gisèle Halimi fait une plaidoirie magistrale à ce sujet.
Et quand une femme dit non, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes, c'est non, ce n'est pas oui. Ces femmes ont dit non ? Expédition punitive décidée. Les détails, vous les connaissez. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais vous dire que lorsqu'une femme, sous sa tente, dort paisiblement, elle est agressée par un ou plusieurs individus qui lui font des propositions que vous savez et qu'elle répond par un coup de marteau. Qui peut encore parler d'accueil ou de consentement ? Tout cela est prouvé, constaté. Coup de marteau, violence, coup de poing, gifle, lèvres fendues, saignantes, ecchymose, coup de poing. Les choses sont claires. Ou si elles ne le sont pas, je pose la question à la cour. Comment une femme qui ne veut pas être violée doit-elle le dire à son violeur potentiel ? Oui, comment ? Extrait de la plaidoirie de maître Gisèle Halimi.
Autre combat féministe de ces années après la loi Veil, c'est celle contre les violences faites aux femmes.
C'est vrai que dans ce contexte féministe des années 70 est aussi posée la question des violences et notamment de la question de ce qu'on appelle à ce moment-là les femmes battues, qui va devenir un enjeu notamment autour de la publication de l'ouvrage « Crie moins fort, les voisins vont entendre » de l'anglaise Erin Pinsey, qui raconte donc son expérience de l'ouverture de premiers centres de refuge pour les femmes battues. Et donc, inspirée par l'ouvrage d'Erin Pinsey, des militantes du MLF françaises vont ouvrir les premiers centres de refuge pour accueillir les femmes battues, notamment l'association SOS Femmes Alternatives en 1975, qui ouvre donc le centre Flora Tristan, un centre d'hébergement pour femmes et enfants à Clichy, dans la région parisienne. Mais d'autres centres vont s'ouvrir dans d'autres grandes villes de France. Donc l'enjeu de ces violences conjugales est posé à ce moment-là.
Il y a un troisième combat qui va être un petit peu plus tardif, c'est le combat pour le remboursement de l'IVG.
Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, la lutte pour l'IVG se poursuit tout au long des années 70. Alors, à la fois sur la question de l'application, comment cette loi est-elle appliquée concrètement dans les hôpitaux, mais aussi sur la question du remboursement qui finalement va aboutir avec l'élection de François Mitterrand et la nomination d'Yvette Roudy comme ministre des droits de la femme. Yvette Roudy avait signé le manifeste des 343, donc c'est une militante de longue date, et donc elle va pousser à cette question du remboursement, non sans rencontrer un certain nombre de résistances au sein même du gouvernement socialiste, mais donc c'est en 1982 que ce combat va aboutir.
Alors jusqu'à présent, on a surtout parlé d'hétérosexualité, mais tout à l'heure tu as exposé le cas des lesbiennes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment évolue le positionnement des féminismes par rapport aux lesbiennes et à l'homosexualité en général ?
Alors la question des mobilisations lesbiennes dans les années 70, c'est une question centrale pour comprendre ces mobilisations féministes autour des sexualités. D'abord parce que les féministes lesbiennes sont nombreuses au sein du MLF et qu'elles ont participé à tous les combats que nous avons évoqués, mais qu'elles s'organisent aussi en groupes de lesbiennes dès le début des années 70. Il y en a de nombreux, à la fois à Paris ou en province. On peut penser par exemple au Gouine Rouge ou au groupe qui va publier à Lyon en 76 le journal « Quand les femmes s'aiment ». Il y en a aussi voilà, à Lille, à Marseille, etc., qui vont commencer aussi à mettre en avant la spécificité de la condition des femmes lesbiennes et aussi la manière dont parfois elles sont marginalisées dans les mobilisations féministes. Cela va aboutir à toute une réflexion sur la dimension politique du lesbianisme. Le lesbianisme politique va être notamment théorisé par l'écrivaine Monique Wittig, qui est une militante féministe du MLF de la première heure et qui, dès 1973, publie un ouvrage qui s'intitule « Le corps lesbien » et qui, à la fin de la décennie, va vraiment essayer de réfléchir à la spécificité lesbienne dans deux textes publiés en 1979 et 1980 dans la revue Questions féministes, donc où elle va avoir une position forte en déclarant les lesbiennes ne sont pas des femmes, et donc elle va vraiment mettre en avant l'idée que ce qui crée l'identité de femme, c'est cette relation particulière à un homme, et que comme les lesbiennes échappent à cette relation particulière de domination, elles ne sont pas des femmes, ce qui va créer énormément de débats au sein du MLF, mais aussi au sein des militantes lesbiennes féministes à ce moment-là, parce qu'elle pose la question du séparatisme lesbien. Est-ce qu'il faut créer un mouvement lesbien autonome ? Est-ce qu'il faut continuer à participer au MLF ? Bon, ce sont des enjeux qui sont importants et qui croisent aussi d'autres enjeux qui sont ceux du militantisme homosexuel avec les hommes, qui va avoir lieu notamment dès 1971 dans le Front homosexuel d'action révolutionnaire, mais qui va aussi mener à certaines déceptions, à certains clivages qui vont faire que les lesbiennes vont retrouver des formes de domination dans ces manifestations, dans ces mobilisations mixtes et donc vont vouloir s'organiser de manière autonome. Donc les années 70 sont aussi un moment fondateur dans les mobilisations qu'on en appelle aujourd'hui LGBTQI+.
Alors merci Bibia. Nous poursuivrons tout ce questionnement sur l'homosexualité et les combats plus récents du mouvement LGBTQI dans un prochain épisode. Dans quelle mesure la contraception et l'IVG ont-elles eu un effet sur les comportements sexuels des Français et des Françaises ?
C'est une question qui n'est pas évidente. On a commencé à avoir des études sur la sexualité des Français avec le rapport Simon au début des années 70. Et puis ensuite, progressivement, l'INED va s'intéresser à ces questions et produire de nombreuses études. Et ce que l'on voit, c'est que finalement, les pratiques contraceptives des Français mettent du temps à évoluer. Et que, par exemple, la pilule contraceptive, elle ne devient la norme française qu'à partir des années 1980, et que finalement, la méthode la plus employée jusqu'à ce moment-là, ça reste le coït interrompu, qui est une méthode répandue depuis même l'Ancien Régime. Donc les méthodes ont mis du temps à évoluer, et les méthodes dites modernes, donc le stérilet et la pilule contraceptive, mettent du temps à se diffuser. Et ce que l'on voit se mettre en place, par contre, à partir des années 80, c'est vraiment un modèle contraceptif à la française. C'est ce qu'ont montré Nathalie Bajos et Michel Ferrand, où en début de sexualité, on utilise des préservatifs. Ensuite, quand on est en couple stable, la pilule contraceptive. Quand on a déjà eu des enfants, le stérilet. Et donc, une norme commence à s'établir à ce moment-là, norme qui fait finalement de l'avortement un accident. On continue à avoir finalement une vision assez négative de l'avortement. Finalement, quand on parle de la loi Veil, c'est un peu réducteur dans la mesure où c'est toute une série de textes qui sont venus approfondir ce premier texte avec le remboursement par la Sécurité sociale de l'IVG en 1982, la création d'un délit d'entrave à l'IVG dans les années 90 pour lutter contre les commandos anti-IVG qui se déploient à ce moment-là, mais aussi plus récemment la suppression de la notion de détresse de la loi, puisque l'idée c'était d'autoriser l'IVG pour les femmes en situation de détresse. Donc avec tous ces approfondissements, ce qui était plutôt conçu au départ comme une tolérance devient véritablement un droit.
Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que les lois Neuwirth puis Veil ont véritablement libéré le corps des femmes, ou est-ce qu'elles ont induit une libération féminine ? Que doit-on penser de cette expression ?
Finalement, cette notion de libération, elle est problématique, parce qu'on a l'impression qu'on passe d'un contrôle total à une forme de liberté, elle aussi totale, alors qu'en réalité, c'est bien plus complexe. Effectivement, il y a un desserrement de ce contrôle rapproché sur le corps des femmes dans cette période, contrôle exercé notamment par les institutions que sont la famille, l'école, l'église, la loi. Mais on a finalement l'imposition de nouvelles normes plus individualisées et plus centrées sur cette idée justement de jouissance, de liberté. Et donc, est-ce que la libération ne devient pas elle-même une nouvelle norme ?
Merci Bibia, c'était passionnant et nous espérons très bientôt revenir sur ces thématiques dans un épisode hors programme. Mais pour l'instant, une transposition didactique que nous propose Clémentine, qui va nous expliquer quelle est la part du corps des femmes, de la sexualité et de l'avortement dans les programmes scolaires.
Eh bien, les programmes scolaires permettent d'aborder les questions de la contraception et de l'avortement, particulièrement dans les programmes de troisième et terminale. En troisième, on a le tout dernier thème d'histoire qui nous demande d'étudier les Françaises et les Français dans une République repensée. Et dans le dernier chapitre donc de ce dernier thème, donc en fait tout à la fin de l'année, on trouve un chapitre intitulé « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques ». Donc la description de ce chapitre est très lacunaire, elle ne mentionne que la place des femmes, qu'on doit inscrire dans les transformations de la société française du XXe siècle. Néanmoins, ça nous offre une large possibilité, parce qu'on a, il ne faut pas l'oublier, une liberté pédagogique quand on est enseignant et enseignante, et on peut donc choisir de centrer notre étude sur les lois relatives à la question de la contraception et de l'avortement, et c'est d'ailleurs globalement ce vers quoi tendent les manuels.
Alors, quel est le manuel que tu proposes d'utiliser ? Quel est celui qui t'a le plus fait de l'œil ?
Alors, celui qui m'a le plus fait de l'œil, c'est le manuel Attier, donc toujours pour le troisième, qui propose une étude de cas centrée sur Simone Veil et la loi Veil. Et notamment, dans cette étude de cas, ce manuel propose deux parcours, et l'un est entièrement centré sur la loi Veil de 1975.
Et qu'en est-il en éducation civique ?
Alors en EMC, on est assez libre dans notre interprétation des programmes. On peut aborder les questions de droit à la contraception et à l'avortement dans le thème sur la sensibilité, en questionnant par exemple le principe de liberté individuelle et de respect d'autrui. On peut aussi aborder cette question dans le thème sur l'engagement, où il faut présenter aux élèves les principes des droits sociaux et leur expliquer l'importance de l'engagement et de la responsabilité citoyenne. Par exemple, en troisième, une étude de cas possible sur le thème « le droit et la règle » serait d'expliquer les grandes étapes du parcours d'une loi dans la République française en prenant l'exemple de la loi Veil.
C'est possible aussi de l'évoquer en géographie.
Alors oui, c'est possible de l'évoquer en géographie si on tord un petit peu les programmes, notamment en seconde, dans le thème « 2, territoire, population et développement, quel défi ?». On peut, en questionnant les inégalités dans les différents pays lors du chapitre 2, le programme demandant de se centrer sur le Brésil, l'Inde et la Russie, on peut aborder donc la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Et le chapitre suivant, centrant sur la France, on peut reprendre ce questionnement et l'étudier dans notre pays.
Oui, par exemple, sur l'Inde, on peut découvrir que la stérilisation est considérée comme un moyen de contraception banal qui concerne la plupart des Indiennes.
Par exemple.
Qu'en est-il en terminale ?
Alors en terminale, c'est l'année où on va pouvoir le plus questionner ce sujet. Il y a 4 thèmes à aborder en histoire en terminale et le thème 3, donc pour une fois on n'est pas tout à fait à la fin de l'année, donc ce thème 3 s'intitule « Les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991 ». Et le chapitre 2, particulièrement, centre la réflexion sur la France et propose un PPO, donc un point de passage et d'ouverture intéressant, puisque c'est un PPO qui concerne 1975 et la légalisation de l'IVG.
Et du coup, quelle mise en œuvre tu nous proposes pour attacher la question de la loi Veil au mouvement féministe et aux droits des femmes à disposer de leur corps en cours ?
Le PPO en tant que tel il doit être contextualisé pour pouvoir comprendre pourquoi cette loi elle est proposée, comment elle est votée et ce qu'elle devient par la suite. Je vais me baser sur le PPO qui est proposé par le livre scolaire Terminal, qui est plutôt intéressant. Donc ce manuel propose aux élèves 7 documents pour comprendre les enjeux entourant la loi Veil. Donc on a une frise chronologique, une chanson engagée, une affiche de Choisir Mlac, un discours de Simone Veil à l'écrit qu'on peut aussi voir en vidéo, une photographie d'une manifestation du MLF et une affiche du Front National critiquant la loi. Pour autant, ces 7 documents-là ne permettent pas de faire comprendre aux élèves l'importance de cette loi, donc il faut remanier un petit peu les choses. On pourrait proposer aux élèves un document qui permet de comprendre la situation des femmes dans une société où ni l'avortement ni la contraception est possible. On peut pour cela utiliser un extrait de l'ouvrage « La grande peur d'aimer », journal d'une femme médecin de Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allée, publié en 1960.
C'est vrai que Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allée, c'est une personne centrale dans l'histoire de ces mouvements pour la liberté de la contraception, puisque c'est la fondatrice de la maternité heureuse en 1956, grande gynécologue et grande militante du contrôle des naissances.
Et d'ailleurs, elle explique très très bien dans son ouvrage, justement, toute la souffrance des femmes qui ne disposent ni de contraception et encore moins d'avortement. On pourrait aussi peaufiner la frise chronologique qui est proposée par le manuel, le livre scolaire, en démarrant en 1956 avec la création de Maternité Heureuse, justement. On peut inclure la date de la fondation du planning familial, la date du procès de Bobigny, la création du MLAC en 73 ou la loi Pelletier de 79, la date de l'adoption définitive de la loi Veil. On peut pousser la chronologie aussi jusqu'à la loi Neyert en 1993, voire même en 2001 avec l'allongement du délai légal de recours à l'IVG de 10 à 12 semaines, et même 2004 avec le décret permettant l'avortement médicamenteux à domicile. On peut ajouter un extrait du manifeste des 343 qui serait intéressant, tout comme un extrait de la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Bobigny. On peut aussi utiliser un document montrant les différents modes de contraception adoptés par les Françaises entre 1978 et 2000. Pour le faire, par exemple, on a un tableau qui est accessible dans La place des femmes dans l'histoire, une histoire mixte, qui a été publié par Mnemosyne en 2010. Et on peut aussi, pour pousser l'analyse jusqu'à nos jours, utiliser des articles exposant la demande qui a été faite d'allonger le recours à l'avortement de 12 à 14 semaines pendant le confinement de 2020. Il y a plusieurs articles qui en parlent régulièrement. La loi est en cours et c'est intéressant justement de montrer que ces questionnements sont encore d'actualité.
Bon, bien sûr, tout ça, ça fait beaucoup de documents. Et on se retrouve toujours à se dire « Ah, oh, mais il faudrait que j'en choisisse maximum 5, 6, comment je vais faire ?» Ben moi, je vous propose justement non seulement de ne pas en choisir moins, mais d'en choisir plus. Pour cela, j'utilise une activité qu'on appelle les groupes d'experts, en fait, qui consiste tout simplement, on est assez nombreux et nombreuses à le faire, à diviser la classe en petits groupes de 3 ou 4 élèves et de les faire travailler sur des documents différents. Donc là, on peut assigner à chaque groupe le nom d'une association ou d'une personnalité féministe et demander aux élèves de réaliser une affiche ou un discours mettant en avant la cause défendue par l'association étudiée. Donc, par exemple, on peut avoir un groupe qui va parler du MLF, un autre qui parlerait de la maternité heureuse et de Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais. On a un troisième groupe qui peut parler du MLAC, un quatrième de Simone Veil, un cinquième de Choisir et Gisèle Halimi, et un autre du planning familial. À côté, on peut également former des groupes réalisant des exposés plus classique entre guillemets, par exemple un groupe qui travaillerait sur le procès de Bobigny, un autre sur les syndicats et la maternité, un autre sur la place des femmes et de l'autorité parentale dans le code civil. On peut aussi parler des pratiques contraceptives en France au XXIe siècle, et puis on peut avoir encore un groupe sur les critiques à l'encontre du droit à la contraception et à l'avortement. Et si on fait tous ces sujets-là, c'est quand même assez large. Avec une classe de 36 élèves en terminale, on peut très bien, on se retrouve avec des groupes de 3-4 élèves.
Ouais, c'est passionnant et je pense qu'on peut aussi peut-être faire un groupe qui traiterait de la différence entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Je pense que ça pourrait aussi susciter un certain nombre de questions et d'interrogations.
Oui, tout à fait.
Oui, travail collaboratif qu'on vous laisse, enseignants qui vous nous écoutez, mettre en œuvre dans vos classes. Merci Bibia, merci Clémentine.
Merci à vous.
Merci.
Nous vous retrouverons dans quelques semaines autour d'un épisode sur les femmes artistes avec une visite de l'exposition Les Pionnières au Musée du Luxembourg, exposition qui commence le 2 mars. Merci.